Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon. 3. Dartford, une rencontre.
Comment l'un fait, le dimanche, des démonstrations de gymnastique à la télévision anglaise naissante, et comment l'autre connaît le succès en tant qu'enfant de cœur. Et comment tous les deux rencontrent Chuck Berry, l'enfance de Mick Jagger et de Keith Richards.
La scène est connue, mais elle est fondatrice. On est à la gare de Dartford, banlieue sud-est de Londres. On est le matin, au printemps 1960, et deux types de 17 ans grimpent dans le même wagon. L'un est habillé en étudiant sage, à peine s'il a sur le front la mèche un peu longue, et rejoint la London School of Economics, où il vient de rentrer. Le second a des chaussures à bout pointu, des chaussettes mauves, une chemise pourpre et, si c'est la mode, ce n'est pas très bien vu. Lui descend deux stations plus loin, où il est au lycée technique, la Sidcup Art School. Ils se connaissent parce qu'ils ont été, avant que la famille du premier déménage dans un quartier plus chic, ensemble à l'école primaire. Ils ne se sont pas revus. Mais celui qui a les chaussettes mauves se souvient d'avoir acheté au premier, l'été précédent, un ice cream qu'il vendait en tricycle devant la bibliothèque municipale. Alors forcément, on se salue. Il se trouve, ce matin-là, que le premier, l'étudiant en sciences économiques, porte sous son bras quelques disques. Et c'est à cause d'eux que le second lance la conversation.
Nice to see you, but where'd you get the records?
Hi, man. I say, where are you going? And under his arm, he's got Chuck Berry and Little Walter, Muddy Waters. You're into Chuck Berry, man, really? Salut, mec. Tu vas où? Et sous son bras, je vois du Chuck Berry, du Little Walter, du Muddy Waters.
Babe, I know you're gonna miss me.
T'es dans Chuck Berry, mec, vraiment?
Et c'est un signe, dit-on, que Mick Jagger et Keith Richards deviennent inséparables. Les disques, denrées rares, on ne les prête pas. On veut bien, pour les partager, proposer de les écouter ensemble. C'est ainsi, toujours plus tard, que Mick Jagger vient sonner à la porte de la maison des Richards et qu'on installe Chuck Berry sur le gramophone à aiguille. Mick Jagger est né en juillet 1943. Et l'hôpital de Dartford s'appelle bien sûr le Livingstone Hospital. Sa mère, Eva, a eu son enfance en Australie. Elle vend dans les magasins de coiffure des produits cosmétiques. Le père, Joe, est professeur de sport et gymnastique. Ils ont un second fils, Chris, famille sans histoire. Attardons-nous pourtant sur le père. Vers 56 ou 57, alors que la télévision sautillante en noir et blanc sur la chaîne anglaise unique prend lentement son essor, Joe propose le dimanche matin une émission de mise en forme. On expliquera en images la pratique des sports, on démontrera les possibilités du nouveau matériel de camping ou d'escalade. Alors Joe amène avec lui son fils aîné. Il a 12 ans, Mick, et se retrouve filmé, vu par quelques dizaines de milliers de foyers. Pas de quoi être reconnu dans la rue, et peu de chance même d'être vu à Dartford. Chez les Richards, par exemple, on n'a pas la télévision. Mais cela ne laisserait pas de traces. Autre dada de Joe Jagger, l'Amérique. Et un sport tout nouveau qui devient la mode. Il l'importe, fonde les premières équipes, quitte son lycée pour devenir entraîneur. Là aussi, il embauche son fils. Mick paradera à l'école, avec les chaussures et la casquette du nouveau sport. Il s'y donne à fond, pensait être ainsi inventeur en son pays même. Le sport, c'est le basketball. Et Mick ne deviendra jamais grand, assez grand. Mais les chaussures et ce sentiment de faire un peu autrement que les autres, oui, cela aussi laissera des traces. Mick n'aime pas franchement la musique. Il le dira souvent plus tard. Ce qu'il préfère, c'est les fanfares. La musique rythmée des cuivres sur le gros poste de radio familial. You wanna hear it one more time?
I used to like marching bands, the military bands of different regiments that I heard on the radio when I was a small child. But I never went to any music or dance or plays. The pantomime was the only large show I was ever taken to. I loved it. Ce que j'aimais, c'est les fanfares, les défilés militaires, des régiments, que j'entendais à la radio quand j'étais gosse. On ne m'emmenait jamais pour de la musique, ni de la danse ou du théâtre. Le grand spectacle populaire de fin d'année, c'est le seul grand spectacle où on m'emmenait. Et j'aimais ça. The one that's still very clear in my head is La Bamba, a favorite record of Mick's. He got all the words off the record, pseudo-Spanish, words that sounded like Spanish but weren't real words at all. Celle qui reste le plus nettement dans ma tête, c'est La Bamba, un des disques préférés de Mick. Et il avait repris tous les mots du disque en pseudo-espagnol, des mots qui sonnaient comme de l'espagnol, mais en fait, ce n'étaient pas des vrais mots, pas du tout.
What can I do?
Little Boy Blue and the Blue Boys est un vrai groupe, rassemblé par Dick Taylor, qui joue pour l'instant de la guitare, avec Mick pour chanteur et deux autres, Alan Etherington et Bob Beckwith. Non pas le skiffle, la musique à danser avec washboard pour le rythme et un manche à balai sur une bassine pour basse, par quoi commenceront Lennon et McCartney, mais le blues. Parce que, dit Mick, en Amérique c'était des hits et chez nous on n'en passait jamais. En somme, un peu comme le basket. Keith est le fils de Bert et de Doris Richards. Bert est contremaître aux usines Osram, ampoules électriques. Il y a travaillé toute la guerre. Il se lève tôt, rentre le soir, se couche tôt. Doris, ah Doris. Son père Gus a eu 7 filles. Gus porte le vieux nom français Dupré, un nom huguenot, anglicisé, avec 2 E à la fin, dans les îles anglo-normandes. Auguste Théodore Dupré a travaillé dans une usine d'habillement et souvent ramené pour son petit-fils dans ses poches des bouts de tissu multicolore. Mais le soir, il est musicien. D'abord saxophoniste dans les bals. Victime des gaz moutardes de la guerre 14, il se reconvertira au violon. Pendant et après la Seconde Guerre mondiale, c'est des dizaines de milliers de soldats américains qui sont en Angleterre. On se spécialise dans leur musique. Cela compense le mal du pays. Quand Doris rend visite à sa famille, Gus prend le petit-fils et l'emmène au centre de Londres voir son vieux copain Ivor Meyrand, un réparateur de guitare et de violon. C'est là que Gus donnera à Keith les premières leçons de guitare, lui apprendra les accords de Malaguena. L'autre initiation, c'est le chant. Keith est enfant de chœur. À la chorale, ils sont juste quelques-uns à chanter assez juste les Alléluia. Et c'est ainsi qu'il chantera, en surplus, à 11 ans, à l'abbaye de Westminster ou au Royal Concert Hall.
Only 3 of us in our white surplices used to be good enough to do the Alleluias. Rien que 3 d'entre nous, dans notre surplis blanc, qui était assez bon pour faire les Alléluias. I think that was my first taste of show business. Mon premier avant-goût du show business. I think that was when I stopped being a good boy and started to be a yob. C'est là, je crois, que j'ai arrêté d'être un bon petit gars pour devenir une daigne.
Puisque la mue des adolescents, c'est fini. On vous renvoie. Doris, fille de Gus, a toujours aimé chanter. Kiss enfant et Bert à l'usine, elle met la radio sur des émissions américaines et danse avec son gamin dans les bras, elle s'en souviendra. Elle fait des heures dans la boulangerie du quartier, dispose d'un peu d'argent. C'est elle qui offre à son fils, sur ses sous, sa première guitare, une mauvaise guitare espagnole à 7 livres, achetée à la coopérative de Dartford. Quand on a la guitare, il faut des disques pour apprendre. Elle complète par un gramophone et Bert désapprouve. Keith se retrouve au lycée technique, où se trouve aussi Dick Taylor. Ils vont ensemble à un concert de Buddy Holly, c'est une révélation. Il faut changer le gramophone, qui abîme les disques avec sa lourde aiguille. Et puis, maintenant, il lui faut une guitare avec un micro. Il passe ses journées en haut de l'étroit pavillon, assis sur les marches, parce que c'est là que ça sonne le mieux. Bert n'aime pas. Quand il y a Bert, silence. Il reproche à Doris de prendre toujours le parti du fils. Ce qui lui semble une merveille à Keith, ces temps-ci, c'est le solo de guitare de Scotty Moore sur I'm Right, Your Left She's Gone d'Elvis Presley au temps des Sun Studios. Il impressionne tellement le jeune Keith, Scotty Moore, qu'il dira plus tard que même si on lui expliquait comment le jouer, le solo, il préférerait ne pas le savoir.
I'm through with love. I'll never fall again. Set a dream to love. Don't ever call again.
Mais le disque de Mick qui a fait réagir Kiss ce matin de juin 1960 dans le train, c'est celui de Chuck Berry. Il est en prison en ce moment, Chuck. Précisément dans un pénitencier de Louisiane dont le nom est français, Terre Haute. Pour une sombre histoire, une fille recrutée lors d'une de ses tournées mineures et qui partage sa chambre. Quand la tournée est finie, il la fait travailler dans le club qu'il vient d'acheter, mais on exige de la fille beaucoup plus que servir les boissons. Elle veut partir et Chuck ne lui fournit comme salaire que son billet retour. Chuck Berry a déjà connu, autrefois, la prison. Fils de pasteur, ses premiers souvenirs sont ceux de l'église, des gospels qu'on y chantait. La première histoire, c'est une affaire de voiture volée entre adolescents, 3 ans de maison de correction. C'est là qu'il apprendra la guitare et son premier métier, coiffeur. Chuck Berry a la capacité de faire rire. Au Cosmopolitan Club se produit le Johnny Johnson Trio. Pas assez réputé pour se payer une contrebasse, Johnny Johnson joue avec un batteur et un saxo et a inventé pour son piano, à la main gauche, toute une série de lignes rythmiques. Parce qu'un soir, le saxophoniste n'est pas là, il embauche le garçon coiffeur pour un remplacement d'un soir à la guitare. Ses chansons font rire, et Chuck intègre le trio. Surtout, il adapte à sa guitare tout ce que Johnson fait à la main gauche. Le style de Chuck Berry, ses licks et le rock en proviennent directement. Il monte seul à Chicago. L'adresse mythique des faiseurs de succès, c'est Chess Records, 2120 South Michigan Avenue. On l'écoute poliment. On lui dit de revenir quand il aura des chansons originales. Selon les époques, on a 3 versions de Chuck Berry lui-même. Dans la première, il dit qu'il revient le lendemain matin, joue la même chose, mais prétend que les paroles sont de lui. Dans la seconde, il revient 8 jours après, ayant transformé les chansons et écrit des paroles. Dans la troisième, il revient à Memphis et ramène avec lui à Chicago Johnny Johnson, mais 2 mois plus tard. En tout cas, il enregistrera pour Chess Maybelline, transforme le standard Brownie Be Good, soit gentil petit noir, dans l'histoire inventée d'un type qui s'appellerait Johnny Be Good, et entame pour toute sa vie d'arpenter l'Amérique avec une Gibson rouge pour jouer avec des accompagnateurs recrutés sur place et cachés payés d'avance en liquide, la même suite de chansons éternelles. Keith Richards, quand Mick Jagger et Dick Taylor l'invitent à venir jouer une fois avec leur Little Boy Blue and the Blue Boys, ne sait jouer que Chuck Berry. Mais il le connaît par cœur, au note à note. Et peut-être que le plus grand événement de sa vie à Keith ne sera pas les Rolling Stones, mais bien ce concert qu'il offre à Chuck Berry pour ses 60 ans, en 1986, alors que plus personne n'imagine que les Rolling Stones réexisteront un jour. Et lui, Keith, qui joue Carole depuis 25 ans, devra tout réapprendre. Pas d'un caractère facile, Chuck Berry. Keith Richards n'apprend pas facilement. On dit qu'il est raide. Mais une fois en place, la musique est solide.
Jump and shout. It's that's a long ride. You park your car out in the open, you can walk inside. A little cute girl takes your hat and you can thank her man. Every time you make the scene, you find the joint a jam. The music like the piano gon' play. Hold tight, pad your butt, don't let it carry it away. Don't let the heat overcome me if the music too loud. Don't the music get tricky when the drummer get proud. Y'all can't dance, I know you wish you could. Sock it to them, keep making them really feel good. Yeah! Yeah! Oh, don't let them steal it away. Gonna learn to dance if it takes me night and day.
Petit film Kodak de 3 minutes, The Little Boy Blue, 1961. Dick Taylor passe à la basse. On trouve pour Bob Beckwith une batterie de fortune. Et Alan Etherington, qui vient de passer son permis de conduire et a le droit d'emprunter la voiture de papa, leur suggère que ce serait bien, eux qui s'imaginent les seuls à jouer en Angleterre du Jimmy Reed, recopié sur des disques d'importation, d'aller un soir à Londres, découvrir un peu où en sont les autres.
Da-da-da-da. What the fuck? Playing bass slide guitar? It's Brian, man, sitting on his little... Da-da-da-da-da, moi je dis. Qu'est-ce que c'est ça, ce bordel? Ça jouait de la slide. Et c'est Brian Meek sur son petit cul.
Les Rolling Stones racontaient comme votre vie même. Un feuilleton de François Bon. Texte dit par Judith Allison et François Bon. Équipe de réalisation, Jean-François Néolier, Patrice Lecomte, Olivier De Canis et Jacques Taroni.